Bon, installez-vous vite, là, je vais commencer. Je vais voir si c'est le technicien. Je vais commencer, c'est bon? Donc, bonjour à tous. Je vais reprendre un tout petit peu avant l'endroit où je me suis arrêté la semaine dernière. Donc je vous rappelle que la semaine dernière, on a parlé un peu d'algorithme. Et on a vu un algorithme très général qui permettait de résoudre les problèmes d'optimisation convexe sous certaines conditions. Donc des conditions de différenciabilité de la fonction objectif et également de forte convexité de la fonction objectif, plus une condition technique sur le gradient de la fonction objectif. Donc cet algorithme, c'est l'algorithme du gradient. Sous ces conditions-là, il fonctionne bien lorsque le problème n'est pas contraint. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, je vais faire avec la souris, lorsque vous regardez ce problème d'optimisation-là, il fonctionne bien lorsque X, par exemple, c'est tout Rn. Je ne sais pas si vous voyez la souris, oui. On parle d'algorithme du gradient projeté lorsque ce x-là n'est pas tout Rn, et à ce moment-là, dans l'algorithme, on a une étape qui consiste à chaque itération à reprojeter la solution qui vient d'être calculée sur l'ensemble grand X. Donc l'itération générale, c'est on a un point courant xk, on se déplace dans la direction opposée du gradient, et si jamais ça nous fait sortir de l'ensemble des solutions réalisables, ben le point courant, ce point-là, ne sera pas réalisable, et donc on le ramène dans l'ensemble des solutions réalisables en le projetant sur grand X. On avait brièvement aussi discuté de l'opération de projection qui était en fait un problème d'optimisation. Si c'est facile de projeter sur grand X, si c'est facile de projeter sur ce grand X-là, si cette opération-là, P de X, est facile à faire, typiquement quand grand X est un pavé, une boule, à ce moment-là, ben, l'algorithme peut très bien fonctionner et sous certaines conditions, donc l'assurance d'une convergence rapide vers la solution optimale. On avait vu aussi, ensuite, j'avais expliqué que sous des conditions très naturelles, donc là, petite parenthèse, on ne parle plus d'algorithme, sous des conditions très naturelles, on avait dualité forte en optimisation convexe. Donc ces conditions, c'est qualification des contraintes. Donc, ce qui revient à dire que Kuhn et Tucker est une condition nécessaire et suffisante, et que le primal est une solution optimale. Alors, on sait qu'automatiquement, le problème dual a une solution optimale aussi, et que la valeur optimale du dual est égale à la valeur optimale du primal. Donc, c'est une sorte de petit miracle mathématique. Et oui, d'ailleurs, je n'avais pas signalé la dernière fois, une façon d'obtenir les solutions optimales du dual, c'est d'appliquer Kuhn et Tucker, et les lambda et les mu que vous voyez sortir dans Kuhn et Tucker, dans ce cas-là, sont précisément les solutions optimales du dual. Si on lit la preuve, ça c'est très clair, et si on ne lit pas la preuve, ben voilà, c'est juste magique. Vous appliquez Kuhn et Tucker, vous calculez des lambda et des mu de Kuhn et Tucker, dans le cas convexe, et ben ces lambda et ces mu sont solutions optimales du dual. Alors, donc la dualité, comme j'ai essayé d'expliquer, ça permet d'avoir, si vous avez un lambda et un mu qui vous sont donnés, ça vous permet d'avoir automatiquement une borne inférieure sur la solution optimale. Donc ça permet de certifier la qualité de la solution retournée. Ça aussi a d'autres intérêts. Hein, ça permet d'avoir par exemple, en théorie des jeux, ça peut, qui est une branche de l'économie, ça énormément d'applications et d'interprétations. Vous en verrez peut-être des cas en économie. Je veux juste signaler une autre application en algorithmique qui est l'algorithme d'Uzawa. Donc l'algorithme d'Uzawa, c'est celui que vous voyez sur les slides. L'algorithme d'Uzawa, donc là ça a l'air un peu, si vous regardez cet algorithme-là comme ça, il a l'air un peu complexe, il y a plein de notations dans tous les sens. Donc le problème que je veux résoudre, c'est le problème habituel, le secours. Hein, vous voyez, vous avez des contraintes d'égalité, des contraintes d'inégalité. On suppose que les fonctions f et h sont convexes, que gi est affine, donc on se met dans le cas convexe. Et cet algorithme, sous certaines conditions, qui sont les mêmes en fait que celles du gradient projeté, converge vers la solution optimale. Alors, comment est-ce qu'il faut lire cet algorithme? En fait, il ne faut pas le lire comme ça du tout. Je pense que c'est volontaire que je ne l'ai pas mis sur le slide, mais cet algorithme-là, et voyez-le donc comme une illustration de la puissance de la dualité, cet algorithme-là, c'est l'algorithme du gradient projeté dans le dual. Donc, même si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, même si ça vous semble trop chargé, retenez la chose suivante. L'algorithme d'Uzawa, donc c'est un algorithme, il y en a plein d'autres algorithmes, hein, c'est plus une illustration qu'autre chose. L'algorithme d'Uzawa est capable de résoudre des problèmes d'optimisation convexe avec contrainte, ce qui n'était pas le cas du gradient projeté en général. Et il s'interprète de la manière suivante, c'est un gradient projeté dans le dual. Et si les contraintes sont qualifiées, hein, ce qui est marqué dans le théorème, si les contraintes sont qualifiées, et qu'il y a une solution optimale, on sait qu'on a dualité forte. Ça veut dire que la valeur optimale qu'on va trouver, la valeur optimale du dual qu'on va trouver, c'est aussi la valeur optimale du primal. Donc la dualité, ça sert aussi à ça. Ça sert à construire des algorithmes qui permettent de trouver des solutions optimales. Pourquoi est-ce que l'algorithme du gradient projeté fonctionne lorsqu'on travaille dans le dual? C'est quoi l'idée? Eh bien, si vous écrivez, je vais essayer d'écrire au tableau. On m'a dit la semaine dernière que vous n'aviez rien vu, donc j'ai parlé, je ne sais pas combien de temps au tableau, vous ne voyez rien. Donc je vais essayer d'écrire plus fort. Si vous ne voyez rien, vous me le dites encore. Mais l'algorithme, le problème dual, c'est quoi? Je ne mets que le cas de contrainte d'égalité. La fonction objective du dual, vous voyez ce f là ou non? Fonction. Oula, je casse tout là. Fonction objectif du dual, c'est d de mu. Égale inf du Lagrangien de x mu sur x appartient à Rn. Et le problème dual, vous voyez le P là, problème dual, c'est je veux maximiser d de mu sur mu appartenant à R plus Q. Vous arrivez à lire ou non là? Donc maintenant, dites-moi, c'est pour ça que j'ai reparlé de l'algorithme du gradient projeté, dites-moi pourquoi ça, si vous regardez un problème d'optimisation comme ça, vous dites, ah, l'algorithme du gradient projeté peut fonctionner. Non, là, on n'est pas sur tout Rn, on n'est pas sur tout Rq. Mais malgré tout, je vous dis que l'algorithme du gradient projeté peut fonctionner. En tout cas, il n'y a pas l'obstacle habituel. Pourquoi? C'était quoi la difficulté de l'algorithme du gradient projeté? Je vous ai dit, la difficulté, c'est la projection. Ici, l'ensemble des solutions réalisables, c'est quoi? RQ+. Est-ce que c'est difficile ou facile de projeter sur RQ+? C'est facile. Hein, c'est très facile. Vous regardez chaque composante de mu. Si c'est négatif, vous faites quoi? Vous le remplacez par 0. Et sinon, vous laissez tel quel. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous partez d'un problème d'optimisation sous cette forme-là. Vous le dualisez. Il y a dualité forte, donc en gros, le message c'est primal dual, ça donnera la même valeur optimale. Mais dans le dual, on a un avantage énorme, c'est qu'on sait projeter. Donc on peut faire du gradient projeté. Donc maintenant, regardons un peu plus près l'algorithme. Oublions les contraintes d'égalité. J'aurais dû mettre le slide sans les contraintes d'égalité parce que c'est juste un détail technique. Donc on oublie cette ligne-là qui correspond aux contraintes d'égalité. Donc on regarde juste cette opération-là. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? Ben justement ce que je viens de dire. La projection sur RQ+. Donc, qu'est-ce que vous attendez à lire ici? Là, vous allez être surpris, vous dites, mais non, normalement, on devrait lire autre chose ici. On devrait lire quoi? Vous devriez lire, si la fonction objective, c'est début, vous devriez lire... Enfin, je reviens en arrière. Si je vous ai dit que c'est un algorithme du gradient, vous devriez lire le... Le quoi? Le gradient de la fonction objective. Vous devriez lire ici, vous devriez lire gradient de, on devrait lire ça, quelque chose comme ça. On devrait lire ça. Vous êtes d'accord? Alors le plus, vous allez me dire le plus. Bon, le plus, on va tout de suite régler son compte. Pourquoi il y a un plus ici, à votre avis? Pourquoi il y a un plus? Oui? Voilà, parce qu'on maximise. Donc le plus, ça, c'est juste un détail qui est lié au fait qu'on maximise. Donc vous savez, maximiser, minimiser, je mets un moins devant la fonction objectif. Donc ça, c'est réglé. La question du plus est réglée. Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas ça? Mais en fait, on le lit. Si j'écris, donc c'est là que ça sort, l'algorithme du Zawa sort un peu du cours, parce qu'il s'avère que la difficulté du problème dual, c'est que la fonction objectif n'est pas différenciable. C'est ça ce qui fait que c'est... There is no free lunch, on dit en anglais. Il y a quand même quelque chose à payer. C'est que le dual, ça a l'air plus simple, mais il y a quand même un problème, c'est que la fonction objectif n'est pas différenciable. Donc c'est pour ça que je ne m'appesantis pas trop sur la théorie qui est derrière l'algorithme du Zawa. Je vais quand même juste vous faire sentir pourquoi ce H de, je sais plus quoi, là, H de XK, c'est le gradient de, c'est bien ce gradient quand même. Je vous ai dit, c'est pas différenciable. Donc c'est une sorte de gradient. C'est ce qu'on appelle un surgradient. Je vous le verrai en deuxième année pour ceux qui continuent l'optimisation. Pourquoi est-ce que c'est quand même plus ou moins le gradient, ce H de XK? Ben, je vais calculer comment est-ce qu'on calcule le gradient, une façon de faire. En mu k, c'est faire ce calcul là, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Hein, vous faites au premier ordre. Vous regardez l'accroissement au premier ordre. Bon, je vais calculer ça. Ça, c'est égal à quoi? D de mu, c'est l'inf de ce truc-là. Donc, ce que je vais faire, c'est, je le dis que c'est plus petit que le Lagrangien en un x quelconque. Donnez-moi un x au hasard. Pardon? Allez, prenons celui qui est sur les slides. XK, j'ai le droit de le prendre. Hein, c'est l'infimum. D demi, c'est l'infimum. Donc, je peux prendre XK. J'ai le droit. Et D de mu K, c'est quoi? Eh bien, là, par définition, c'est l'infimum de LXK mu K. L'infimum de LX mu K. Donc c'est comme ça que je définis le XK. Vous êtes d'accord? Donc par définition de XK, c'est L de XK mu K. Vous êtes avec moi? Ça va? Vous arrivez à me lire ou vous voyez rien? Vous voyez rien? Vous voyez rien, mademoiselle, c'est ça? Pas très bien? Non? Ça va?
C'est bien.
Bon. Merci. Et donc ça, c'est égal à quoi? Eh bien, spécialisé de Lagrangien. Lagrangien, c'est F de XK plus mu h de x k. Oui. Donc qu'est-ce que vous allez voir apparaître ici? Mu moins mu k fois h de x k. Enfin, en l'occurrence, c'est un produit scalaire. Par définition de Lagrangien, j'ai juste exprimé les choses. Oui ou non? Oui, c'est d'accord ou non? Bon, j'aurais peut-être dû mettre dans l'autre sens. J'aurais peut-être dû mettre hxk scalaire mu moins muk. Toujours est-il que si ici il n'y avait pas une inégalité, eh bien ça, ce serait bien votre gradient. C'est le terme linéaire, le terme du premier ordre. Au premier ordre, ça quantifie la variation au premier ordre. Vous êtes d'accord? Si je n'avais pas une inégalité ici, si j'avais une égalité, ben ce serait même une fonction affine. Cette fonction-là, dmu, serait affine, et ce serait précisément la variation unitaire en muk. Bon, ici, c'est pas une égalité, c'est une inégalité. Et le fait que vous puissiez l'écrire pour tout mu fait que, voilà, ça, on peut l'interpréter comme une sorte de gradient. Donc, je ne vais pas aller plus loin, parce que, comme vous voyez bien, ce n'est plus vraiment un gradient. Mais quand même, quelque part, vous êtes capable de dire quelque chose sur le comportement de D de mu au premier ordre dans le voisinage de mu k. Et donc, c'est pour ça que ce H de xk-là, il s'interprète comme le gradient, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas différentiel, je vous ai dit, de D de mu k. Et c'est ce qui explique pourquoi ça apparaît ici. Alors, là, pour moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est, d'abord, la dualité, c'est puissant. Cet algorithme, il fonctionne vraiment. Et deuxièmement, qui est relié au premier point, c'est que cet algorithme, vous pouvez l'utiliser en pratique. Vous pouvez l'implémenter, et ça, sous des conditions très naturelles, ça résolvera le problème d'optimisation convexe avec contrainte d'égalité et d'inégalité. Donc là, vous avez un algorithme qui résout, sous des conditions très générales, les problèmes d'optimisation convexe. Ça va? Alors vous pouvez me dire aussi, oui, mais on a la valeur optimale, mais on n'a pas la solution optimale, parce qu'on a juste la solution optimale du dual. En fait, pas de problème, et je pense que c'est fait dans le cours. Le xk, on a la chance, le xk qui est là et qui converge, en fait, il converge vers la solution optimale. Ça demande un petit travail de démonstration, mais c'est pas non plus infaisable. Voilà, donc là, j'en ai fini avec l'optimisation convexe générale. J'ai parlé encore un peu d'algorithme. Et maintenant, je vais vous parler, on va commencer un nouveau chapitre, à moins que vous ayez des questions. Oui ? C'est raisonnable. Pour des algorithmes beaucoup plus rapides que l'algorithme du Zawa, mais qui par contre sont plus difficiles à implémenter. Et de toute façon, par rapport à l'optimisation linéaire sera toujours infiniment plus rapide que ces algorithmes-là. C'est-à-dire que si vous pouvez vous ramener quitte à faire une petite approximation à un problème d'optimisation linéaire, vous avez intérêt là, parce que là vous pourrez exploiter la puissance des algorithmes de l'optimisation linéaire. Mais cela dit, juste, si vous voulez faire étudier un problème d'optimisation convexe et vous devez le résoudre sans passer trop de temps à développer, voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Si ce n'est pas contraint, vous prenez un algorithme du gradient. Par contre, vous pouvez faire du pas variable. J'avais signalé qu'il y avait des petits raffinements faciles à faire sur l'algorithme du gradient. Et ça vous permet déjà d'avoir une première idée. Et si vous voyez que c'est une bonne piste, après, vous pouvez peut-être mettre plus d'énergie pour essayer de développer des algorithmes plus avancés. C'est souvent comme ça qu'on fait. Très bien. Donc maintenant, je passe... À moins qu'il y ait d'autres questions sur l'optimisation convexe, parce que là maintenant, on n'en parlera plus vraiment d'optimisation convexe. On va parler d'optimisation linéaire, donc aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc s'il n'y a pas de questions, ou d'objections, de réclamations, je passe à l'optimisation linéaire. Qu'on a déjà vu un peu lorsque j'avais présenté le projet. Je vous rappelle que le projet est à rendre à un moment ou l'autre, je ne sais plus quelle date j'ai donnée, début novembre, je crois. Donc pensez quand même à vous y mettre. Donc, l'optimisation linéaire. Je vous remontre quasiment les mêmes slides que ceux que j'avais montrés pour la présentation du projet, juste pour vous remettre dans le bain. Un problème d'optimisation linéaire, c'est un problème d'optimisation dont la fonction objectif est linéaire, affine. Je dis souvent linéaire, mais parce qu'en anglais, on dit linéaire pour affine. Donc, on peut aussi dire affine, mais linéaire, ça couvre ça. Donc, les fonctions d'objectif sont affines, la fonction d'objectif est affine, et les contraintes sont affines. Donc, chaque fonction est de la forme a scalaire x, fonction de x, a scalaire x, moins b, où a est un vecteur de, ben ici, ce sera quasiment toujours de Rn, et b, c'est un scalaire. Donc, la forme la plus générale d'un problème d'optimisation linéaire, vous conviendrez avec moi, que c'est quelque chose sous cette forme-là. Donc ça, on en a déjà discuté, peut-être même que vous avez commencé à travailler sur le projet, que vous avez commencé à manipuler ce genre d'objet. Donc j'avais aussi signalé que l'optimisation linéaire se prête particulièrement bien à une interprétation géométrique, et les experts en optimisation linéaire, ils jonglent de la vision plus algébrique à la vision plus géométrique. L'optimisation linéaire, c'est quoi? C'est optimiser sur un polyèdre, une fonction affine sur un polyèdre. Et un polyèdre, c'est quoi? C'est une intersection d'un ensemble de demi-espaces fermés. Je crois que lorsque j'ai présenté le projet, j'avais passé un tout petit peu de temps à vous montrer, par exemple, en dimension 2, pourquoi c'était un polyèdre, non? Je crois. C'est simplement que chaque contrainte, si vous oubliez les contraintes d'égalité, chaque contrainte d'inégalité, c'est je suis d'un côté d'un hyperplan. Donc si vous avez une collection de contraintes d'inégalité, ça veut dire que vous avez une collection d'hyperplans tel que pour chacun d'eux, vous êtes contraint à être d'un côté. Et un hyperplan, ça délimite quoi? Ça délimite un demi-espace fermé. Un demi-espace est fermé parce que c'est des inégalités larges. Ça va? C'est bon? Donc l'optimisation linéaire, c'est optimiser sur un polyèdre. Alors bien sûr, si vous prenez des gros problèmes, vous vous rendez compte que, par exemple, le problème du projet là, que je vous ai donné, je ne sais pas moi combien il y a de variables. Il y a la production pour chaque mois, c'est ça? Il y a 12 mois, donc ça fait déjà, vous êtes en dimension 12. Mais si en plus, vous avez le stock qui apparaît comme variable, vous êtes en dimension 24. Donc il existe effectivement un polyèdre, mais le polyèdre, quand vous avez un problème d'optimisation de stock, ben vous pouvez être en dimension 24. Donc c'est impossible de se représenter. Et dans les vrais problèmes industriels, on peut être en dimension 1 million, sans problème. Sans problème. Et les solveurs industriels savent le gérer, ça. Donc, le premier message théorique que je veux faire passer aujourd'hui, et vous allez faire en petite classe normalement aujourd'hui aussi, plus précisément, c'est que sans perte de généralité, et ça je pense que je ne l'avais pas dit au moment de la présentation du projet, sans perte de généralité, on peut se restreindre à l'étude des problèmes d'optimisation linéaire de cette forme-là. Vous allez dire, mais où sont passées les contraintes un peu riches d'inégalité, les contraintes d'inégalité un peu riches? Eh bien, donc c'est ce que vous allez faire en exercice en petite classe. C'est que quitte à introduire d'autres variables, à réécrire un peu le problème, vous pouvez toujours faire porter les contraintes d'inégalité uniquement sur les variables. Donc ça, je pense que ce n'est pas complètement intuitif. Donc c'est un petit exercice que vous ferez. Mais le premier message est le suivant, c'est que finalement, les inégalités, elles peuvent toujours, on peut toujours s'arranger pour qu'elles ne portent que sur les variables. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant? En pratique, ce n'est pas intéressant. En pratique, vous vous en fichez complètement parce que le solver, si vous avez commencé à le pratiquer, du moment que vous mettez des égalités ou des inégalités larges, il est content. Que ce soit sur les contraintes d'inégalité, d'égalité, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas du tout à vous ramener à cette forme-là d'écriture qu'on appelle la forme standard. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc, pratiquement, ce n'est pas intéressant. Théoriquement, c'est intéressant parce que c'est la bonne forme, c'est une forme sur laquelle il est particulièrement agréable d'étudier les problèmes d'optimisation linéaire. Donc, la forme standard, c'est bien, mais c'est principalement bien pour des raisons théoriques, pour l'étude des problèmes d'optimisation linéaire. Après, c'est toujours bon d'avoir un peu de recul. Si vous utilisez un solver, c'est toujours bon d'avoir un peu de recul pour comprendre ce qu'il fait et puis pour pouvoir interpréter si jamais ça ne marche pas, si jamais ça donne des solutions qui sont pas celles auxquelles on s'attend. Je suis juste en train d'expliquer que c'est bien de faire un peu de théorie. Mais en pratique, cette forme-là, tout comme tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui d'ailleurs, là, je vais vous expliquer un algorithme pour résoudre les problèmes d'optimisation linéaire. Dans un sens, vous pouvez très bien dire, je m'en fiche complètement. J'utilise mon solver, ça donne la solution. Donc c'est juste pour avoir du recul. Vous n'avez pas. C'est bien avec l'optimisation linéaire, c'est que vous n'avez pas besoin de le reprogrammer. Je vous l'avais déjà dit. Vous n'avez pas besoin de reprogrammer les algorithmes de résolution de l'optimisation linéaire. Autant vous avez besoin de coder Uzawa ou les gradients, parce qu'il n'y a pas forcément des bibliothèques qui le font dans des cas génériques. Mais la programmation linéaire, l'optimisation linéaire, pardon, se prête très bien à la gestion générique des problèmes. Et on a plein de solveurs extrêmement efficaces qui sont libre ou payant. Donc, je n'ai pas envie de dire que ce dont je vous parle ne sert à rien, mais c'est pour que vous ayez du recul sur les problèmes d'optimisation linéaire. Ça va? Donc, on verra en petite classe pourquoi comment est-ce qu'on peut se ramener à cette forme standard. Et je vous demande juste maintenant de me croire. Et pour aller plus loin, je vais introduire un peu de notation. Qui est une notation, il me semble, les années passant, j'oublie de plus en plus, mais il me semble que ce n'est pas du tout une notation standard en algèbre linéaire. L'optimisation linéaire, ce n'est pas l'algèbre linéaire. Je pense que vous allez voir ça en petite classe. Je n'ai pas le temps de le faire là. Je ne sais plus si je l'ai dit Si jamais vous ne faites pas en petite classe, je vais juste vous donner un petit exercice pour vous à faire. Petite parenthèse. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose. Je veux minimiser C scalaire X sur les contraintes que AX égale B. Sous les contraintes, donc. Et puis X appartient à RN. Je ne mets pas de contrainte de signe sur X. Je ne mets pas d'inégalité. J'affirme que ce problème-là, même si ça se rapproche le problème ça rentre dans le cadre de l'optimisation linéaire, c'est un problème tellement facile qu'avec les outils classiques d'algèbre linéaire, vous pouvez le résoudre tout de suite. Donc c'est un exercice. Faites-le en exercice. En gros, il y a ce que j'appelle une forme close. Vous avez une expression, vous pouvez explicitement donner la solution optimale. juste en discutant le rapport entre A et C. D'accord ? Donc c'est un exercice, peut-être que vous le ferez en petite classe, je crois que j'avais dit aux charités de l'évoquer. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, faites-le en exercice. Comme ça, vous pouvez réaliser que s'il n'y a que des inégalités, que des égalités, pardon, pas de contrainte de signe, pas d'inégalité, eh bien c'est facile et c'est de l'algèbre linéaire. Et ce qui est curieux, c'est que dès que vous mettez des inégalités, en fait, vous changez de monde. Vous passez du monde de l'algèbre linéaire au monde de l'optimisation linéaire, qui est un monde beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué. Je vous avais essayé d'y aller aussi, je pense, au moment du projet, où j'avais présenté le projet, qu'avant les années 40, on ne savait pas résoudre les systèmes avec des inégalités. On n'avait pas d'algorithme efficace pour faire ça. Et c'est que dans les années 80 qu'on a su qu'on avait des algorithmes vraiment efficaces pour le faire. C'est quand même bizarre, hein. L'étude des systèmes d'inégalités linéaires n'ont été compris algorithmiquement de manière correcte qu'en 1980. Tout ça pour dire que voilà, ça c'est que l'algèbre linéaire, c'est facile, faites-le en exercice. Et ça pour dire aussi qu'il y a une notation spécifique à l'optimisation linéaire parce que ça va bien plus loin que l'algèbre linéaire. Donc quelle est cette notation ? C'est une notation très simple. J'ai une matrice A et j'ai un vecteur X. Donc là, la matrice A, vous voyez, les colonnes sont indicées par 1, 2 et 3. Et maintenant, je m'intéresse à un sous-ensemble de ces colonnes. Par exemple, la colonne 1 et 3, j'appelle ça B. Eh bien, 1 indice B, c'est la matrice dont les colonnes sont celles que indicées par B. C'est aussi bête que ça. Donc ici, 1 indice B, c'est quoi ? C'est la matrice, dites-moi par exemple la première colonne, 1 moins 2, et la seconde colonne de AB, c'est 3, 5. Et pour XB, même notation. Donc ça va être le vecteur 2, 4. D'accord ? Donc, c'est ça. Je vous laisse juste vous imprégner de cette notation-là, parce que ça a l'air rien du tout, mais c'est avec ça qu'on va jouer. D'accord ? Donc ça, c'est la notation. C'est bon ? Donc je regarde à nouveau mon problème d'optimisation sous la forme standard. Et je vais faire une hypothèse, pour faire un peu de théorie, maintenant je vais faire une hypothèse. Je vais faire l'hypothèse que les lignes de la matrice A sont linéairement indépendantes. Est-ce que je perds quelque chose en faisant ça ? À votre avis, est-ce que je perds quelque chose ? En fait, je ne perds rien. C'est trivial de voir que je ne perds rien. Enfin, c'est très facile de voir que je ne perds rien. Parce que de deux choses, une, soit elles sont linéairement indépendantes, et donc je suis dans le cadre de ce que je suis en train d'étudier, soit elles ne le sont pas. Et ça veut dire quoi qu'elles ne sont pas linéairement indépendantes ? Ça veut dire qu'il y a une combinaison linéaire qui les lie. Supposons qu'il y a une combinaison linéaire qui lie les lignes de la matrice A. Eh bien, de deux choses, une, soit cette combinaison linéaire, c'est la même que celle qui lie les lignes de B. Hein, par exemple, supposons que la deuxième ligne, c'est deux fois la première ligne. Et supposons que B2 soit trois fois la première ligne. B2 égale 3 et B1 égale 1. Là, vous savez que vous n'aurez jamais de solution. Donc soit les lignes sont linéairement indépendantes et tout va bien, soit elles ne le sont pas. Et dans ce cas-là, deux choses. Soit le système n'a pas de solution pour une raison triviale, algébrique. Et donc, on peut rejeter le système. Soit il y a une contrainte, au moins, qui est redondante, et donc on peut se ramener à un système avec une ligne de moins. Donc, linéairement indépendant, pour des raisons algébriques, de l'algèbre linéaire, on peut s'y ramener de manière triviale. Très bien. Donc, je suppose que A est à ces lignes linéairement indépendantes. Et maintenant, j'introduis la notion théorique fondamentale de l'optimisation linéaire, qui est la notion de base. Ce n'est pas exactement la même base que l'algèbre linéaire, c'est très proche. Si vous parlez à quelqu'un qui fait l'optimisation linéaire, une base, c'est un sous-ensemble des colonnes, tel que la matrice, un sous-ensemble B des colonnes, tel que la matrice A indice B, c'est-à-dire quand je sélectionne les indices dans B, et bien j'obtiens une matrice inversible. Quelle est la première chose sur B ? Que vous pouvez dire sur B. B a forcément... Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la cardinalité de B ? D'une base, pardon. Pardon ? C'est le rang de la matrice, et donc ici, c'est donc le nombre de lignes. J'ai supposé que les lignes étaient linéairement indépendantes. Donc une base, c'est un sous-ensemble de colonnes qui génère... qui forme une matrice inversible. Et donc, par des arguments élémentaires d'algèbre linéaire, j'espère que c'est encore frais dans votre esprit, eh bien, le nombre d'éléments de B, d'une base B, est forcément égal au nombre de lignes de la matrice A, puisqu'on a supposé que les lignes de A étaient linéairement indépendantes. Et on dira qu'une base B est réalisable si AB moins 1B est positif. D'accord ? Donc AB, c'est, ah oui, AB c'est une matrice comment ? C'est une matrice carrée. Oui ? Donc AB moins 1, elle a un nombre de colonnes, un nombre de lignes, pardon, qui est... Non, un nombre de colonnes qui est égal au nombre d'entrées de B, parce que c'est le nombre de lignes. Donc, c'est bien, en tout cas, formellement, c'est défini. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une base réalisable ? Je vais essayer d'écrire encore. Pourquoi on appelle ça une base réalisable ? Bah, pour la raison qui est écrite, en fait, sur les slides. Donc, prenez ça juste pour une définition, un peu bizarre comme ça, on dit que c'est une base réalisable si cette quantité-là est positive. En fait, pourquoi est-ce que c'est bien comme définition ? Parce que regardez, je pose YB égale AB moins 1B, je pose YN égale 0. Eh bien, j'affirme que YB, YN est réalisable si la base est réalisable. Donc, je redis, je prends un sous-ensemble B des colonnes, tel que la matrice AB, donc la matrice formée par ces colonnes, est inversible. Je calcule AB moins 1B. Si toutes ces composantes sont positives, j'appelle ça une base réalisable. Et il s'avère que le vecteur YB, YN, défini comme suit, comme sur les slides, est une solution réalisable. Pourquoi ? Eh bien, pour être réalisable, il faut que... donc il faut quoi ? Il faudrait que A, Y égale à B et Y soit positif. Hein ? C'est ça, être réalisable pour un problème d'optimisation linéaire. Ben, 1y, c'est quoi ? Je vais le faire une fois, ça. Je vais mettre tous les détails, et après, j'irai plus vite. Ay, je peux l'écrire comme ça, somme des yi à i. Plutôt, je vais mettre des j, je crois, pour ça. Vous me suivez ou non ? Pour j allant de 1 à n. J'espère que vous voyez, AJ, c'est la colonne J de la matrice. Hein, c'est la définition, révisez votre algèbre linéaire, mais c'est la définition du produit d'une matrice par un vecteur. Et donc ça, je peux l'écrire sous la forme AB fois YB plus... Ah oui, je n'ai pas dit ce que c'était N, c'est sur les slides, mais je n'ai pas dit explicitement. N, c'est le complément de B, hein, c'est juste les autres indices. Et donc c'est AB fois YB plus AN fois YN. Donc si j'ai posé YB comme sur les slides, qu'est-ce que vous voyez apparaître ? ABYB, ça fait... ABYB, ça fait quoi ? Petit b. Et ANYN, si YN fait 0, bah, ça fait 0. Donc ce Y-là, il satisfait la première contrainte. Est-ce qu'il satisfait la deuxième contrainte, à savoir d'être positif ? Eh bien oui, parce que AB-1B est positif, justement. Hein, je vous rappelle que là, c'est le vecteur formé par les entrées dans B, et YN, c'est le vecteur formé par les entrées dans N, dans le complément de B. Donc juste par un calcul vraiment facile d'algèbre linéaire, on voit que si j'ai une base qui est réalisable, qui vérifie AB-1B est positif, eh bien, je peux construire naturellement une solution réalisable associée. À toute base réalisable correspond une solution réalisable naturelle associée à cette base. Est-ce que ça va ? Ça va ? Ou vous n'avez rien compris ? Ça va ou non ? Personne ne dit, ne crie parce qu'il ne comprend plus rien. C'est là, pour le moment, c'est vraiment pas difficile, c'est juste jouer avec la définition presque. Hein. Et là, c'est là qu'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire que j'avais déjà mis sur les slides du projet. Donc normalement, on est page 29, j'espère que je ne me suis pas trompé. On est dans le chapitre 4, hein, optimisation linéaire, et on est page 29, voilà. Donc j'avais mis ce théorème-là, sauf que j'avais sûrement pas mis l'expression basique réalisable, solution basique réalisable. Ah oui, j'ai pas dit ce mot. Basique réalisable, ben c'est ça. Une solution basique réalisable, c'est juste une solution. Ah oui, j'ai pas le droit de montrer avec le pointeur. C'est une solution qui est construite comme ça. Qui est construite à partir d'une base réalisable, qui est de cette forme-là. Ça, c'est une solution basique réalisable. Donc, un des théorèmes fondamentaux de l'optimisation linéaire, c'est la chose suivante, ce que j'avais déjà expliqué la dernière fois un peu. D'abord, si vous êtes borné inférieurement, si vous êtes réalisable, s'il existe au moins une solution réalisable, et si le problème est borné inférieurement, alors il existe une solution optimale. Je redis, ça devrait être un peu surprenant pour vous, parce que vous savez que vous pouvez avoir une valeur optimale, vous pouvez être borné inférieurement, et ne pas avoir de solution optimale. Je reprends toujours le même exemple, parce qu'il est très bien, 1 sur x, il est borné inférieurement par 0, il n'y a pas de solution optimale. Ce phénomène-là n'arrive pas en optimisation linéaire. Et ce n'est pas en utilisant la compacité ou la coercivité que vous pourrez démontrer ce résultat. C'est un phénomène d'une autre nature. La compacité n'est pas garantie, je suis passé un peu vite là-dessus, mais le polyèdre, l'espace des solutions réalisables, n'est absolument pas contraint à être compact, il peut être infini. Et la coercivité ne peut pas fonctionner mieux non plus, puisque la fonction objective n'est clairement pas coercive. Donc ça n'a pas la peine de vouloir essayer d'appliquer la coercivité. Donc ce théorème-là est d'une autre nature. Donc premièrement, si c'est borné inférieurement, il existe une solution optimale. Et deuxièmement, s'il existe une solution optimale, il en existe forcément une qui est basique réalisable. Forcément une de la forme YB à YN. Bon, c'est plus sur les slides, c'est pas au tableau. Donc ça veut dire qu'il existe forcément une base B telle que YB égale AB moins 1B, YN égale 0, est une solution optimale, si vous êtes borné inférieurement. J'avais prévu de plus l'expliquer au tableau, mais là je vois le temps qui passe. Pour le moment, je vais pas le faire. Conséquence de. J'ai quand même envie de le faire. Je trouve ça dommage que je vais essayer quand même de vous donner l'idée. Pourquoi c'est vrai? Je vais essayer. D'abord, avant d'essayer de vous faire passer l'idée, je vais juste vous donner la première conséquence, qui n'est pas du tout évidente. Une conséquence. Ça, c'est quand même une conséquence vraiment fondamentale. Oui. Alors, j'ai juste rajouté cette phrase aussi. Notez que j'ai pas dit que la valeur optimale est toujours finie. C'est si c'est borné inférieurement, mais il se peut aussi que, dans certains cas, la valeur optimale soit moins l'infini. Géométriquement, ça correspond à un rayon infini le long duquel la fonction objective peut être rendue arbitrairement petite. Je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. Mais il y a une autre conséquence à ce théorème. C'est ce qui est indiqué au bas de la page 29. C'est que vous savez maintenant qu'en temps fini, forcément, vous avez un algorithme pour trouver la solution optimale. Pourquoi ? Pourquoi vous avez... Dites-moi pourquoi. Vous avez un algorithme qui, en temps fini, vous donne la solution optimale. Ce théorème-là, si elle existe. Disons, je suppose que je suis borné inférieurement. Ma fonction objective est bornée par 0, par exemple. Expliquez-moi pourquoi alors ce théorème implique que vous pouvez écrire un algorithme qui, en temps fini, avec un nombre fini d'opérations, à coup sûr, vous trouvera la solution optimale. Voilà. Vous pouvez tester tous les ensembles B de cardinalité M, si M est le nombre de lignes. Si la matrice AB n'est pas inversible, ça c'est un truc qu'on peut vérifier, vous calculez le déterminant, par exemple, c'est un truc brutal, mais ça marche, vous pouvez tester si c'est inversible ou non. Si c'est inversible, vous calculez AB moins 1B, ça c'est la formule de Cramer, par exemple, voilà, AB moins 1B, ou la formule de, si vous connaissez la formule de l'inverse d'une matrice. Donc vous pouvez calculer le YB, le YN, vous les stockez tous, vous comparez la valeur de la fonction objective, vous prenez le plus petit. Et ce théorème vous dit que là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne raterez pas la solution optimale. Donc ça, je pense que c'est ce qui est indiqué là en bas de la page 29. Donc vous avez un algorithme. Il y a un autre message que je n'ai pas mis dans le poly, je crois, et qui est pourtant extrêmement profond, extrêmement important. Vous travaillez sur un problème d'optimisation linéaire, je travaille sur le même problème d'optimisation linéaire. Je vous dis, j'ai trouvé la solution optimale. Eh bien, je peux vous transmettre d'une certaine manière, la solution optimale, sans perte d'information, sans avoir à faire une approximation. En optimisation convexe, ce n'est pas vrai, en général, je vous ai dit. on ne l'a pas vu sur des exemples concrets, mais c'est, dès que vous avez des racines, des choses comme ça, vous voyez bien que vous serez à epsilon près. Donc je vous donnerai une solution qui sera, je vous dirai, voilà, j'ai une solution et je sais qu'elle est epsilon près, une solution optimale. Et je vous donne un epsilon. Là, ici, je peux vous transmettre avec une précision infinie la solution parce que je n'ai qu'à vous donner le B. Je peux vous transmettre le B. Je dis ce B-là est optimal. D'accord ? Donc c'est quand même, c'est peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est quelque chose qui est vraiment très différent de l'optimisation convexe habituelle. C'est-à-dire que je peux transmettre des informations avec une précision infinie. Je vais quand même, avant de venir sur le truc, je vais quand même vous donner l'intuition géométrique. Je vous dis qu'on peut, en optimisation linéaire, on peut avoir une intuition géométrique. Donc j'introduis la notion de sommet. Un sommet d'un polyèdre, vous avez vu, j'ai essayé de dessiner un polyèdre là. Un sommet, c'est quelque chose qui est tel que, il y a différentes façons de le définir, mais vous pouvez le définir en disant que si vous arrivez à avoir un hyperplan qui, on dit sépare, qui a le polyèdre d'un seul côté et qui contient un seul point du polyèdre, alors ce point-là, c'est ce qu'on appelle un sommet. L'intuition qui est derrière, c'est juste c'est une pointe. Il y a d'autres façons de le définir, hein. C'est une définition possible. C'est pas grave si vous ne comprenez pas correctement la définition. Dites-vous juste, un sommet, c'est une des pointes d'un polyèdre, et sachez qu'on peut le définir de manière formelle, tout à fait précise. Eh bien, juste pour que vous connaissiez cette interprétation géométrique, les solutions basiques réalisables correspondent au sommet du polyèdre. J'en ai déjà parlé un peu au moment de l'introduction du projet. Donc, le théorème fondamental qu'on vient de voir, on peut aussi le voir en disant... Si la fonction objective est bornée inférieurement, il existe une solution optimale, et là, il existe même d'ailleurs une solution optimale qui est un sommet du polyèdre. Et je vous avais même montré ce dessin-là. Vous avez montré ce dessin-là, qui était les choux et les courgettes. On avait vu qu'effectivement, si on essayait de maximiser 4x plus 5y, on montait de plus en plus loin, et on arrivait au moment sur le sommet qui est rouge là-haut. Donc c'est bien l'image qu'il faut avoir en tête. Je n'aurai pas le temps, je pense, de parler de l'algorithme simplex aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais quand même essayer de vous expliquer, juste, je ne veux pas vous prouver vraiment correctement ce théorème-là, mais j'ai quand même envie d'essayer de vous expliquer pourquoi ça c'est vrai. Ce que je vais juste vous expliquer, supposons qu'on ait... une matrice A. Je prends une matrice A avec deux lignes. Juste deux lignes. J'espère que vous voyez ce que j'écris, c'est peut-être pas assez grand. Et supposons que j'ai une solution X réalisable. Donc j'ai X réalisable. Ça veut dire quoi ? Par exemple, on va faire un exemple très bête. Que j'ai... x1 à 1 plus x2 à 2 plus x3 à 3 égale b. Donc là déjà vous voyez, on va supposer que x1, x2 et x3 sont tous les trois strictement positifs. J'ai dit la matrice A elle a deux lignes, on va supposer qu'elles sont linéairement indépendantes. J'ai un x réalisable qui est comme ça. Donc déjà, si mon théorème est vrai, cette solution est peut-être... Attention, mon théorème ne dit pas que cette solution n'est pas optimale. Mais il dit que forcément, s'il existe une solution optimale, hein, vous êtes d'accord, si vous avez trois colonnes, ça peut pas être un système de colonnes linéairement indépendant, puisqu'il y a deux lignes. Donc d'après mon théorème, il existe forcément une solution optimale qui n'active, pour lequel il n'y a que deux entrées qui sont strictement positives. Hein, vous êtes d'accord ? On sait le théorème vous dit qu'il existe une solution basique réalisable optimale. La solution basique réalisable optimale n'a des composantes non nulles, au mieux, hein, je remets là, c'est là, pardon, hein, c'est que YB qui est dans une solution basique réalisable, c'est que YB qui a des entrées non nulles. Tous les autres sont nuls. Donc une façon de lire ce théorème-là, c'est que Même si ça c'est optimal, il en existe aussi une dans laquelle une de ces composantes-là est nulle. Et pourquoi c'est vrai ? Ben, je sais que A1, A2, A3 sont forcément linéairement dépendantes. Parce qu'en A3, j'ai que deux lignes. Donc je sais que j'ai Z1, A1, plus Z2, il existe ZZ, tel que ceci. Il existe un Z comme ça, parce qu'elles sont linéairement dépendantes. Hein, ma matrice A n'a que deux lignes, il existe Z comme ça. Même si vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté là, oubliez ce que j'ai raconté là, je passe de là, de A à ça, vous savez que c'est vrai, avec les Z qui ne sont pas tous nuls. Hein, c'est la définition d'être linéairement dépendant. Et ce que je fais, je pose XI plus TZI. J'aurais dû faire comme ça, pardon. Je pose XIT égale XI plus TZI. XIT, c'est XI plus TZI. T petit. Qu'est-ce que vous pouvez dire de XI ? T petit n'est positif ou négatif, hein ? Qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur x de t ? Est. Et quoi ? Est. Personne ne voit ? Si t est petit, toutes les composantes de x restent positives. Et vous avez toujours cette égalité-là qui est satisfaite, parce que ça fait 0. Donc x de t est réalisable. Oui ou non ? Ça va ou ça va pas du tout ? Ça va pas du tout. Bon. En tout cas, l'idée est la suivante. C'est qu'en exploitant la dépendance linéaire des colonnes, s'il y a trop de colonnes, je peux construire une famille de solutions paramétrées par un t. Et en bougeant le t, je peux construire une nouvelle solution réalisable. Je vais juste vous écrire la fonction objective. La fonction objective, ça devient quoi ? On a C1 X1 plus TZ1 plus C2 X2 plus TZ2 plus C3 X3 plus TZ3. Supposez que CZ1 plus CZ2 plus CZ3 est strictement négatif. Supposons que CZ1 plus CZ2 plus CZ3 est strictement négatif. Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur T, si vous voulez minimiser ? Je vous ai tous perdu. Ça, c'est juste la valeur de la fonction objectif évaluée sur ce XT-là. Je vous dis, supposez que CZ1 plus CZ2 plus CZ3 est strictement négatif. Ben, si vous augmentez t, vous allez construire une solution réalisable avec une valeur de la fonction objective qui est plus petite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on bouge, ça pourrait être aussi négatif, mais donc ce que l'on fait, c'est qu'on va bouger t dans la direction qui améliore la fonction objective. En général, on peut le faire. Hein, c'est une preuve approximative ce que je fais, c'est juste pour vous donner l'idée. Je redis, on part d'une solution réalisable où il y a des dépendances sur les colonnes. Il y a trop de colonnes par rapport au nombre de lignes. Je sais qu'il existe une relation comme ça avec des Z. Avec ce Z-là, je peux construire une famille infinie de solutions réalisables, un rayon en fait, paramétré par T. Et en général, il y a une direction dans laquelle l'autre, ce rayon, je peux diminuer la fonction objective. Et ce qui va se passer quand je vais diminuer la fonction objective, c'est que soit je peux aller à moins l'infini, mais si je suis borné inférieurement, je sais que je ne pourrai pas y aller. Ce qui va se passer, c'est que l'une de ces composantes-là va devenir... Est-ce que quelqu'un voit ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut rendre ma solution non réalisable ? C'est qu'une des composantes devienne ? Oui, et ça veut dire quoi, sortir l'ensemble des solutions réalisables ici ? Ça veut dire... Les égalités sont toujours satisfaites. Il y a une autre contrainte. Hein. L'autre contrainte, c'est d'être positif. Donc quand vous allez bouger T pour améliorer la fonction objective, eh bien, ce qui peut se passer, si vous êtes borné inférieurement, même c'est sûr que vous allez, ça va se passer, vous allez devenir négatif. Vous n'allez plus être réalisable. Mais juste avant de devenir négatif, vous devenez zéro. Je suis en train de dire que vous avez passé un des xi à zéro. Si les colonnes sont linéairement dépendantes, vous avez un moyen de faire passer à zéro l'une des composantes et tout en améliorant la fonction objectif. C'est ça l'idée qui est derrière ce théorème. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une solution optimale qui est basique réalisable. Bon, ma preuve était bien sûr approximative avec les mains, mais c'est l'idée qui est derrière cette preuve-là. Et j'espère c'est ce qui vous fait comprendre pourquoi ce théorème est vrai. Et pour ceux qui veulent vraiment voir la preuve de manière formelle, exacte, précise, c'est dans le poly, donc page 29. Donc je vous remercie. On se reverra la semaine prochaine. On reste ensemble pour ceux qui sont dans mon groupe. Juste deux petites choses. Donc la semaine prochaine, on verra l'algorithme du simplex qui résout l'optimisation linéaire, premièrement. Deuxièmement, il y a des feuilles d'exercice à récupérer en haut, normalement, qui sont les feuilles de la séance d'aujourd'hui. Voilà. Bonne semaine à tous, pour ceux que je ne vois plus. Donc n'oubliez pas de prendre les feuilles d'exercice en sortant.